Mais pour le message, on va se concentrer, et c'est les versets qu'on va lire, ou je pourrais dire relire. Les versets 15 à 17, ça va être notre texte, il est court, mais combien important et puissant. Donc 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, c'est un passage familier. On peut lire « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » On va prier. Seigneur, on veut humblement et par la foi s'approcher de ce texte, sachant que tu l'as écrit pour notre instruction, pas pour notre divertissement, pas pour notre voisin, pas pour un autre, mais pour nous ici ce matin. Tu es un Dieu personnel et c'est toi qui enseignes chacun, qui convainc. Et Seigneur, donc, on veut porter une attention vraiment absolue à ce que tu as à nous dire ce matin, chacun pour nous, Seigneur, sachant que tu as une œuvre, que tu as commencé, que tu veux continuer. Et Seigneur, les distractions qu'on peut avoir, les soucis, ce qui fait du bruit dans notre âme, Seigneur, puisses-tu faire le silence? Et on veut s'asseoir à tes pieds, comme Marie l'a fait, choisir la bonne part. Merci, Seigneur, que tu es au milieu de nous, que tu es le plus important, celui qui fait le vrai travail. On s'en remet en tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, on termine le mois de juin, le thème, hein? Je l'ai dit au début, peut-être pas un thème très, on parle pas souvent nécessairement de ça. Le thème, c'est Dieu révèle sa colère. On a parlé de ça dans le mois de juin. Et le dernier texte que je prends, c'est ce qu'on vient de lire. Non seulement il est familier, comme je le disais, mais c'est aussi un texte qui est d'actualité, je crois. Je crois que dans la perspective divine, c'est là où la colère de Dieu se révèle contre son peuple. Et je vais expliquer comment. Parce que le peuple de Dieu est orgueilleux et incrédule à plusieurs égards. Et ça se démontre de façon concrète dans les trois domaines qu'on a dans le verset 16. Le verset 16, quand ça parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'est la nature fondamentale qu'on a héritée depuis la chute en Éden. Je ne sais pas si vous savez, mais ces trois choses-là, c'était l'essence de la tentation en Éden. Ces trois choses-là, c'est un désir fort de faire, d'avoir et d'être. Et on voit ça dans Genèse 3, où est-ce que ça dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Hein? » Bon à manger, le désir de faire, hein? « Je veux manger. » Agréable à la vue, le désir d'avoir. Et précieux pour ouvrir l'intelligence, être quelqu'un. Voyez-vous comment il y a vraiment... Puis Jésus, c'est la même affaire quand il a été tenté de tout de suite manger ses pierres en les transformant en pain. C'est un désir de faire quelque chose pour essayer de pourvoir à ses besoins. Quand que Satan l'a amené sur le dessus du temple, hein, désir d'avoir cette gloire tout de suite, immédiate, que les hommes disent « Wow, c'est lui le Messie hein, » de descendre comme ça et être reconnu comme ce que les hommes s'attendaient à ce que le Messie soit, convoitise d'avoir. Et lorsqu'il a dit « Tous les royaumes de la terre, je te les donne si tu me prosternes et tu m'adores. » Et ce désir d'être le grand roi de la terre et tout ça. Donc, on voit, c'est le fondement de toute tentation, de l'œuvre de Satan. Et c'est ce qu'il y a dans le monde. Et les trois éléments sont là, dans le même ordre, dans le jardin d'Éden, dans la tentation, et ici dans notre texte, toujours dans le même ordre. Et c'est important, c'est pas par hasard. Le Saint-Esprit l'a voulu ainsi. Et c'est ce que chacun de nous, si ce n'était pas de la grâce transformatrice de Dieu, de sa libération, de la satisfaction que Jésus-Christ donne, nous serions encore esclaves de ces choses. Et c'est ça l'idée de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est être libéré de la puissance de ces forces spirituelles sur nos cœurs. C'est ça la rédemption. C'est ça, on l'a perdu en Éden et on le retrouve en Jésus-Christ. Depuis la création, le lot de l'homme, c'est de lutter avec ses désirs, ses passions et ses penchants de notre nature adamique. La nature qui vient par la chute. Et évidemment, ces penchants, ces passions sont contre le dessein original de Dieu, contre son plan original. C'est pourquoi, c'est ce que j'ai appelé, et c'est le titre du message, « L'amour que Dieu déteste ». L'amour que Dieu déteste, l'amour du monde. Et c'est pourquoi aussi je crois que Dieu a châtié son peuple, à travers l'histoire, mais spécialement en 2020-2021. Dieu voulait s'attaquer à ça, purger ces choses de son peuple. On dit que dans la parole de Dieu, Dieu, ça dit qu'on doit supporter le châtiment comme des fils que Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et ça continue en disant que, juste un peu plus loin, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Et c'est ce que Dieu, dans sa bonté, a fait en 2020-2021. Donc, je veux clarifier quelque chose. On parle de la colère de Dieu. L'objet de la colère de Dieu, ce n'est pas le peuple de Dieu. Parce que si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans le bien-aimé. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a vu que la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Mais pour nous qui sommes sauvés, rachetés par le sang de Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Donc, la colère de Dieu, ce n'est pas sur son peuple, mais sur ce qui détruit son peuple. Et c'est ces trois choses. C'est le monde. Et vraiment, si je résume ici les versets, par exemple, au verset 15, « N'aimez point le monde. » Ça veut dire quoi? Comment on réconcilie ça avec Jean 3,16? « Car Dieu a tant aimé le monde. » On aurait-tu aimé le monde ou on ne l'aime pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a deux façons d'aimer le monde. Il y a une façon d'aimer le monde dans le but de le sauver, de le délivrer. Puis, il y a une autre façon, c'est de se perdre avec lui. Il y en a un qui émane du cœur de Dieu, puis l'autre de notre chair. Donc, vous savez clairement, quand ça dit ici « N'aimez point le monde », de quelle façon ça n'en parle. Au verset 16, je n'ai parlé déjà, mais cette convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, il y a une gradation dans ces éléments-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est toujours dans le même ordre, que ce soit dans le jardin d'Éden, que ce soit lors de la tentation de Jésus-Christ ou ici dans notre texte, il y a toujours la même ordre. Puis, c'est un appel croissant à ces passions qui combattent dans nos membres. Et je pense que l'expression clé, c'est la plus forte, la dernière, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est ici quand on dit vie, vous savez, en grec, il y avait plusieurs mots pour vie. Le mot qui est utilisé ici pour vie, dans la langue grecque, ça voulait dire, ça référait au moins subsistance, au bien, à la fortune, à la condition de vie, à la façon de vivre. Donc, ça renvoie à la fausse sécurité que pourraient nous donner les richesses. Et la façon de se l'acquérir, non pas par Dieu et pour Dieu, mais pour soi-même. Autrement dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a pas de sécurité dans ces choses. Verset 17, ça dit que le monde passe et sa convoitise aussi, ok? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La volonté de Dieu, ce n'est pas une référence à parfaitement, il dit ici, là, faire la volonté de Dieu, de jamais faillir en rien, parce que Il n'y a personne qui ne pêche pas. Ici, l'idée, c'est plutôt, ça réfère à l'obéissance de la foi. C'est la marche des enfants de Dieu. Et l'obéissance de la foi, Paul ouvre l'Épître aux Romains avec ça, et il ferme l'Épître aux Romains avec ça, ce grand épître sur la justice de Dieu. Et c'est l'obéissance qui plaît à Dieu, l'obéissance qui répond à Dieu, celle que Dieu honore et qui nous donne une assurance, une grande assurance devant lui. Et c'est le but de ce verset. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Amen.
Maintenant, l'amour que Dieu déteste, c'est un peu comme un enfant qui demande à un docteur, « Pourquoi vous vous lavez tout le temps les mains? » Ben, il dit, « Parce qu'on aime les personnes, puis on aime la bonne santé, mais on déteste les virus et les bactéries. » Et de la même façon, ça dit dans la parole de Dieu, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. » Psaume 97, 10. Ça dit aussi dans Romains 12, 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » C'est ça l'idée de l'amour que Dieu déteste. Quatre raisons qui expliquent cet amour que Dieu déteste. La première, à cause de ce que le monde est. Pourquoi Dieu déteste cet amour? À cause de ce que le monde est. On va voir c'est quoi le monde. Ici, ça réfère au verset « N'aimez point le monde ». On a parlé un petit peu en introduction. C'est quoi ça, le monde? Le monde, ici, quand on réfère à cette expression, ça réfère au système de Satan qui s'oppose à Jésus-Christ. Sur la terre, et même dans le monde spirituel, et qui va contre tout ce qui est pieux, qui est spirituel, de mille et une façons. OK? Je vais juste vous donner une couple de références en rafale, ça va vous aider à comprendre. Par exemple, dans le même épître ici, 1 Jean 5,9 nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Jean 12,31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Puis on voit aussi cette dynamique-là dans Éphésiens chapitre 2, les deux premiers versets, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Un autre référence sur le monde, « Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle ou de ce monde sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. » Donc, on voit, il y a une gang dans un côté, puis une gang de l'autre. Une dernière référence au sujet du monde. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a, » Jésus ici qui dit ça, « qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, voyez-vous? C'est ça le monde. C'est ce système qui est opposé à Dieu, à Christ, à sa rédemption et qui s'oppose évidemment aux enfants de Dieu. Donc, il est clair ici que le chrétien n'appartient pas à ce système. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et même que Christ, par sa rédemption, ça nous dit dans Galates, qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher du présent siècle, de ce monde, OK? Mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et vous connaissez sûrement 1 Corinthiens 7,31, « Et ceux qui usent du monde comme n'usant pas du monde, en user sans en abuser. » OK, je veux dire, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse notre épicerie, puis qu'on travaille, puis... Et on en use sans en abuser. C'est ça l'idée, car la figure du monde passe. Et Jésus même, quand il a prié pour les siens, dans sa fameuse prière sacerdotale de Jean 17, il a dit au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. » Donc, on n'appartient pas à ce monde ici-bas. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Oh man, c'est tellement merveilleux. Écoutez, 1 Pierre chapitre 1. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu nous a rachetés, nous a sortis de ce monde. On était esclaves et il nous a libérés. Donc, pour les mettre en image, c'est comme si les chrétiens sont un peu comme des hommes scaphandres. Vous savez, c'est quoi un scaphandre? Ça nous permet d'aller dans l'eau, qui est un élément qui n'est pas l'habitat naturel de l'homme. On n'est pas équipé, on n'est pas créé pour vivre en dessous de l'eau. Donc, on a besoin d'un équipement spécial si on veut aller en dessous de l'eau pour être capable d'y rester plus longtemps que le souffle qui nous permet de l'avoir. Donc, pour être capable de respirer sous l'eau, on a besoin d'un équipement spécial. Ben, le chrétien, c'est la même chose. Lorsque nous sommes créés en Jésus-Christ, hein, si quelqu'un est une nouvelle, est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est ici-bas à habiter sur la terre, on a besoin du souffle du Saint-Esprit, le souffle de vie. C'est ça qui nous permet dans ce monde, à cause du Saint-Esprit, de vivre dans ce monde comme n'étant pas du monde. C'est par la grâce de Dieu, par son esprit, c'est l'équipement spécial pourvu par Dieu, son esprit lui-même. Écoutez ce que ça nous dit à ce sujet-là dans Romains 8, 26. « De même, l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Galates 5, 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voyez-vous comment c'est la provision de Dieu pour vivre dans ce monde. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc, on est dans un monde hostile et pollué. Et donc, ça m'amène au deuxième point. La première raison pour laquelle Dieu, c'est qui explique l'amour que Dieu déteste, c'est ce que le monde est, on vient de le voir. Mais la deuxième, c'est à cause de ce que le monde fait aux chrétiens. Le monde n'est pas neutre. Le monde est hostile. Il atteint le chrétien. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 15. Dans le verset 15, pardon, on a parlé du monde, mais ça dit « N'aimez pas le monde. » Il a dit « Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » On s'entend que le verset 15, ça parle beaucoup d'amour. Aimer le monde, c'est comme si vous voulez respirer l'air vicié qui est dans le monde. Et ça, il y a un mot biblique pour ça, « mondanité ». La mondanité, on va parler un peu de mondanité. C'est ça que le monde fait aux chrétiens, ça le rend mondain. OK? La mondanité, ce n'est pas tant une question de pratique que d'attitude. C'est pas un simple acte extérieur, c'est une disposition intérieure. Très important à avoir la distinction. Et la mondanité affecte non seulement notre amour pour Dieu, mais aussi notre disposition à faire sa volonté. On a vu verset 17, hein, celui qui fait la volonté de Dieu, le monde va affecter ça. Pourquoi? Parce que on n'aura plus cette joie, cette plénitude du Saint-Esprit qui fait qu'on fait d'un bon cœur la volonté de Dieu, mais c'est comme une obligation. Il faut le faire, un devoir. C'est vraiment pas pareil. Donc, à la lumière de ce que je viens de dire, on pourrait définir la mondanité de cette façon-ci. La mondanité, c'est toute chose dans la vie d'un chrétien qui lui fait perdre son appréciation de l'amour de Dieu, son appréciation de l'amour de Dieu, et son désir de faire sa volonté. C'est simple. La mondanité, c'est ce qui fait perdre l'appréciation de l'amour de Dieu et son désir de faire la volonté de Dieu. Et donc, le barème pour mesurer mon degré de mondanité, je suis-tu mondain? C'est pas de me comparer, ah, moi je fais ça, puis l'autre fait pas ça, donc moi je suis pas mondain, puis lui est mondain. Non, c'est mon appréciation, c'est intérieur. Et on pourrait le dire de cette façon aussi. Si je veux mesurer ma mondanité. Comment est-ce que je réponds à l'amour de Dieu? La foi répond, hein? Donc, comment je réponds par la foi à cet amour que Dieu m'a tout donné pleinement en Christ? Dieu m'a sauvé, pas parce que moi, je l'aimais le premier. Lui m'a aimé le premier. Comment je réponds à tant d'amour? Et comment est-ce que j'ai un plaisir, une joie à faire sa volonté? Un nous parle de notre foi, c'est la réponse à l'amour de Dieu. L'autre nous parle de notre humilité. Par humilité, on prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Et remarquez, ce barème-là est intérieur. Je peux tout être speak and span à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, mais la mondanité se mesure par des choses à l'intérieur de mon cœur. C'est là la grande tromperie dans laquelle certains se sont leurrés en pensant qu'ils étaient spirituels parce qu'ils faisaient ci, ça, ça, ou qu'ils faisaient pas ci, ça, ça, mais dans leur cœur, il n'y avait pas l'appréciation de l'amour de Dieu, ni de désir, de plaisir pour la volonté de Dieu. C'est une grande tromperie qui détruit beaucoup de chrétiens et d'églises. Donc, on comprend que la mondanité, ce n'est pas nécessairement une chose mauvaise qui va la causer. qui va avoir l'effet de créer la mondanité dans notre vie. Ça peut être une bonne chose qui est entre moi et Dieu. OK? Donc, le danger de cette chose mondaine qui m'amène à la mondanité, c'est pas sa nature même nécessairement. Ça peut, mais pas nécessairement. C'est sa position dans ma vie. Si elle est entre moi et Dieu, c'est ça le problème. Par exemple, un jeune couple chrétien qui se fréquente. On en connaît d'ailleurs, l'amie à Camille. Elle n'est pas encore mariée, hein, Caroline? Elle va se marier bientôt. C'est une belle chose. Ça vient du Seigneur. Le Seigneur les a dirigés comme ça. Puis toute la famille est contente. Puis tout ça. Puis il devrait se marier à quelque part dans le mois de juillet. C'est beau. Mais on sait qu'il y a un danger que cette bonne relation, cette bonne chose, vienne brimer, vienne être un frein entre la relation que chacun a avec son Dieu. L'autre personne peut prendre, être dans le chemin par rapport à la relation de chacun avec Dieu. Et donc, si on regarde plus en détail cette chose qui vient entre nous et Dieu, elle est décrite dans le verset 16 sous trois formes différentes, trois pièges dans lesquels l'enfant de Dieu peut tomber. D'abord, ça nous parle de la convoitise de la chair. Convoitise de la chair, je l'ai dit tantôt, c'est un désir de faire. De faire. Et ça qui vient de notre nature non régénérée, là. OK? On s'entend. Ça nous dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si on est un enfant de Dieu, on n'est pas dans cette catégorie-là, mais on a une nature qui ne prend pas plaisir aux choses de Dieu, cette nature pécheresse adamique qui est encore dans même l'enfant de Dieu. On sait que l'Esprit de Dieu est plus grand, plus fort, et il vainque cette nature-là, mais cette convoitise de la chair veut faire. Et ça, c'est un étranger, un intrus dans la vie d'un chrétien. C'est pas la norme. C'est pas ce pourquoi le chrétien vit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu, je l'ai dit tantôt, on est une nouvelle création en Jésus-Christ, puis ça nous dit aussi dans... j'ai-tu le verset ici? Dans Galates, au chapitre... je l'ai lu tantôt, mais je vais aussi rajouter le verset 16. Chapitre 5, verset 16, Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dans notre nature pécheresse, on voudrait faire des choses, mais Dieu nous a donné son esprit pour qu'on fasse ce que lui veut. Pas ce que moi je veux, mais ce que lui veut. Et c'est ça, la convoitise de la chair, c'est ce que moi je veux faire. Je veux faire ça. L'idée, c'est une question de contrôle. Qui est-ce qui contrôle? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ma chair ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? L'un donne les œuvres de la chair, l'autre donne le fruit de l'Esprit. À vous le choix, on sait lequel qui est le meilleur. Il y a la convoitise des yeux ensuite. La convoitise des yeux, c'est un désir d'avoir. Je vois, je veux. Ça nous dit dans Psaume 119, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Ce désir d'avoir, de la convoitise des yeux, c'est des choses, encore là, qui peuvent pas nécessairement toujours être mauvaises, souvent elles le sont, mais qui m'éloignent, qui me distraient, qui me rendent indifférent, insensible à Dieu et à sa voix. C'est ce qui est arrivé à Achan. Achan, lorsqu'il a vu, écoutez, il s'est dit, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéard, deux sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. » Convoitise des yeux. Maintenant, ça l'a affecté non seulement sa vie, mais celle des autres. Et les yeux sont la porte de nos pensées, la porte vers l'intérieur. Donc, ça influence notre vie intérieure, ce que nous gardons devant nos yeux. Dans Lamentations, ça dit « Mon œil me fait souffrir. » En anglais, ils l'utilisent plus souvent que nous, on le fait. « Mine eyes affected my heart. » Mais mon œil me fait souffrir. Mon œil, ce que je vois, puis là, ici, vous voyez Jérusalem qui était détruite. Jérusalem, la ville bien-aimée, Jérémie se lamentait de voir ça. C'est dans Lamentations 3:51. Écoutez ici, Hébreux 12:2, en fait, vous connaissez, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Maintenant, il y a le troisième, non seulement la convoitise de la chair, convoitise des yeux. Le troisième, l'orgueil de la vie, c'est un désir d'être. Le standing, la notoriété, l'acceptation sociale. Savez-vous ce que la Bible dit là-dessus? « Ainsi parle l'Éternel. » Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Ça, c'est tout l'orgueil de la vie, là. OK? Dans le domaine de la sagesse, de la force, de la richesse, ça fait pas mal le tour du standing, de ce qu'on peut être. OK? Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Mm-hmm. Quel beau passage de Jérémie 9, versets 23 et 24. La gloire de Dieu, elle est riche, elle est satisfaisante. Celle de l'homme, elle est vide, elle est vaine. Elle ne satisfait jamais. Si on veut ce désir d'être, on va tout le temps être insatisfait si on le cherche dans le monde. Mais en Christ, on trouve la plénitude. Dieu a fait quelque chose de parfait en Christ et c'est ça qu'on est appelé à être. Une nouvelle création, une nouvelle identité. Maintenant, tous ceux qui s'engagent ou se perdent dans la voie de la mondanité par ces trois, convoitise les yeux, convoitise la chair, l'orgueil de la vie, il y a un engrenage. Écoutez bien, je vais vous donner des versets qui nous parlent de l'engrenage dans lequel ça nous amène. Dans Jean 4:4, ça dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, cette amitié avec le monde, c'est le premier, c'est l'engrenage. Pourtant, la Bible est très claire. Dans 1 Jean, c'est l'épître qu'on considère ensemble aujourd'hui. Ça nous dit que ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Si on veut être ami avec le monde, il y a quelque chose qui ne va pas marcher à quelque part parce que le monde déteste Christ et ses enfants et tout ce qui a rapport avec Dieu et sa parole. Donc, on ne s'en va pas sur un chemin qui va nous amener à s'épanouir dans la volonté de Dieu. On comprend ici que la mondanité, et je le répète, c'est pas nécessairement une mauvaise chose qui va produire les effets néfastes dans notre vie, mais c'est le fait que ça peut être une bonne chose qui est entre moi et Dieu. Donc, le danger, c'est vraiment de laisser cette chose venir entre moi et mon Dieu. Mais si j'ai cette amitié avec le monde qui s'engage, qui avance, je vais être souillé par le monde. Jacques 1:27, ça nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Puis ensuite, lorsque ça continue, non seulement qu'on a cette amitié avec le monde, puis que là, on est souillé par le monde, ensuite, on va devenir conforme au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde. C'est le mot de la même idée ici. Et là, si on avance encore plus là-dedans, on va être condamné avec le monde, comme ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » C'est pour ça que Dieu châtie son peuple, comme il le fait. Pour pas qu'on soit condamné avec le monde. Savez-vous l'illustration de tout ce que je viens de vous dire là, cet engrenage? Lot. Lot est un type du chrétien mondain qui fait les mauvais choix, qui se laisse diriger par cette convoitise des yeux. Hein? Il a vu Sodome et Gomorrhe, c'était arrosé par l'Éternel. Puis là, il a voulu faire de quoi par rapport à ça. Il a pris les choses en main, puis il est allé. Puis il a voulu avoir du standing, il était à la porte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a regardé vers Sodome et Gomorrhe, puis ensuite, il s'est aménagé là, puis il a été capturé. Littéralement, parce que quand des ennemis sont venus, il a fallu que son oncle aille le chercher parce qu'il avait été capturé. Mais aussi, savez-vous quoi? Dans son cœur, ça a été cité tantôt, mais écoutez, comment il a été captivé dans son cœur avec tout ça, comment il était dans une position que lui-même aurait voulu sortir, puis qui était lamentable. On le dit dans 2 Pierre au chapitre 2, Si la condamnée, ici ça parle de Dieu, à la destruction est réduite en cendres, les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, voyez-vous, il était pogné là, là. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Et tout ce qu'il a investi, c'est littéralement parti en fumée. Tout. C'est un type du chrétien qui est sauvé comme à travers le feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il prendra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. 1 Corinthiens 3:15. Le plus tragique dans tout ça, c'est qu'il n'a pas vécu selon ce que Dieu avait fait de lui dans sa grâce. Dieu lui avait donné la grâce d'être avec Abraham, la promesse, tout ce que Dieu, son œuvre de rédemption, puis il s'est égaré de tout ça. Ça nous amène à la troisième raison qui explique pourquoi il y a cet amour que Dieu déteste. Non seulement à cause de ce que le monde est, de ce que ça fait aux chrétiens, mais à cause de ce que le chrétien est aussi. Le chrétien, on voit dans les versets, regardez chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour nous a témoigné, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » C'est quoi que le chrétien est? Un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu. Et dans les versets qui précèdent ce qu'on a lu, versets 12 à 15, on voit c'est un enfant ou est-ce qu'il y a différents degrés. Dans les versets 12 à 15, on voit il y en a qui appellent des petits-enfants, d'autres des jeunes, puis l'autre des hommes. Fait que c'est selon ce que je comprends de ça, et je ne suis pas seul à le croire, là, mais c'est différents degrés de maturité dans la marche chrétienne. Il y en a qui viennent d'être sauvés, c'est comme des petits-enfants. Il y en a qui, c'est des jeunes, sont forts, sont dans la fleur de l'âge. Puis il y en a d'autres qui ont plus de millages, puis tout ça, puis ça. Ils ont une maturité, puis tout ça. Et ça parle des enfants de Dieu. Maintenant, le monde est tout simplement étranger à ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu au verset 3. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. C'est pour ça que le monde ne comprend pas. Aller à l'église, ce n'est pas essentiel, on n'a pas besoin. C'est parce que le monde ne connaît pas Dieu qui dit ça. Nous qui connaissons Dieu, on sait que c'est plus qu'essentiel, c'est vital. Un enfant de Dieu a besoin, oui, de Dieu, mais aussi du peuple de Dieu, puis de l'église de Dieu.
Amen.
Maintenant, la solution à la mondanité, la solution, c'est pas d'essayer plus fort d'être saint ou de pas être souillé par le monde, mais c'est de vivre à la lumière de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ.
Amen.
C'est lui qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est vivre à la lumière de ça. Je ne suis plus un enfant de ce monde. J'ai été racheté, j'ai été libéré par le sang de Christ, j'ai été arraché du présent siècle mauvais. Vivre à la lumière de cette délivrance, de cette rédemption. C'est ça le secret contre la mondanité. C'est pas d'essayer fort de ne pas être conforme, c'est de vivre à la lumière de celui qui m'a libéré. C'est ça la clé. Et lorsque nous vivons comme ça, dans les lieux célestes, à la lumière de ce que Christ a fait pour nous, des richesses incompréhensibles de Christ, alors la puissance de l'attrait du monde sur notre cœur est brisée. Pourquoi? Parce qu'on est tellement émerveillé, on voit quelque chose de tellement plus beau que le monde, son attrait, ça perd sa vigueur. J'aime ce cantique en anglais, ça dit « Quand Dieu est proche ». « Ah, le monde semble donc loin. When God is near, all the world seems far away. » C'est bien ça, les paroles? Quand Dieu est proche. Et ça, mes amis, la puissance de l'attrait sur nos cœurs brisés par Christ, sa rédemption. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu, dans sa grâce, quand il sauve quelqu'un, il donne un amour pour lui, puis on répond à cet amour et un désir pour faire sa volonté. Deux choses qui deviennent plus fortes, qui en elles-mêmes sont plus fortes que le désir de faire ma volonté puis mon attachement à ce monde. C'est le miracle de la grâce, mes amis. C'est surnaturel. Il n'y a pas de religion qui donne ça. Il n'y a pas de réforme qui donne ça. C'est quelque chose qui vient d'en haut puis que Dieu fait dans le cœur de quelqu'un. C'est ça que le chrétien est, quelqu'un qui est racheté par le sang de Christ, qui est sorti de ce monde par la grâce de Dieu. Et c'est la seule raison valide et biblique pour laquelle nous devons vivre. Et ça m'amène à la troisième cause, la quatrième et dernière cause qui explique l'amour que Dieu déteste, à cause d'où le monde s'en va. Où le monde s'en va, verset 17, le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, le monde n'est pas permanent. Il ne va pas durer ce monde. En fait, la Bible nous dit qu'il va être consumé par le feu. Alors pourquoi perdre notre temps et notre énergie puisqu'il voue à la destruction? C'est insensé. Et au fond, c'est bien simple. Soit que je vis pour ici-bas, ou soit que je vais vivre ici-bas parce qu'on est dans le monde, mais à la lumière de l'éternité. Soit que je vis pour la vanité, soit que je vis pour l'éternité. Écoutez, je vais vous donner un verset qui est très bon. On avait Colossiens qui est sorti d'un verset. Écoutez Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce verset-là nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on consulte une fois de temps en temps comme une encyclopédie. Ah, OK, c'est quoi la volonté de Dieu? On va dans la bibliothèque, je sors ça, puis OK, c'est ça ici. La volonté de Dieu, c'est pas une encyclopédie qu'on sort une fois de temps en temps, c'est une chose qui contrôle complètement nos vies. La volonté de Dieu, c'est ce qui nous contrôle. Tout est une question de contrôle. Je vais vous donner une couple de versets encore en rafale. Ça va aider à comprendre à ce niveau-là. Écoutez bien. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5:17. Où Jésus dit dans Matthieu 7:21, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on croit à son Fils. Écoutez aussi la prière de Épaphras dans Colossiens 4:12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et un petit dernier à ce sujet-là, sur la volonté de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. La volonté de Dieu, c'est quelque chose, pas qu'on sort une fois de temps en temps, mais qui contrôle nos vies. Et ce n'est pas optionnel. Ou pour l'amener avec une autre image, êtes-vous déjà allé dans une cafétéria? Peut-être les enfants à l'école, puis... La volonté de Dieu, c'est pas une cafétéria où est-ce que, OK, là, je prends ça, puis, ah non, ça, j'en veux pas, puis non. La volonté de Dieu, c'est total. Tu prends ou tu laisses. C'est non négociable. Vous demanderez à Job, est-ce que Dieu a dit, hey, ouais, Job, excuse, j'avais pas pensé à... J'aurais dû te laisser le choix là-dessus, puis... Non, Job, la volonté de Dieu, c'était, boum, tu prends ça, puis c'est non négociable. Est-ce que Job, c'est ça qu'il aurait choisi? Certainement pas. Mais, c'est ce que Dieu avait pour lui. Et ici, le verset 17 nous dit que le monde passe. Pourquoi? Parce qu'il fait sa propre volonté. Mais l'enfant de Dieu demeure. Pourquoi? Parce qu'il fait celle de Dieu qui est éternelle. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas possible pour le chrétien de ne pas être dans ce monde. Mais lorsque le monde est dans le chrétien, là, les problèmes commencent. Je répète. OK, on est dans le monde. C'est pas possible de sortir de ce monde. On côtoie les gens de ce monde et tout ça. Mais quand le monde rentre dans notre cœur, là, les problèmes commencent. Puis je termine avec une illustration. Vous n'êtes pas obligé de tourner là, mais dans 1 Roi 19. Après que, dans le chapitre 18, le prophète Élie a fait tomber le feu du ciel, puis a montré comment l'Éternel est Dieu, puis comment les prophètes de Baal, c'est des prophètes de vanité, de mensonge. Il entend la voix de Jézabel qui dit que Dieu que les dieux me traitent dans toute la rigueur si je ne te traite pas toi comme tu as traité ces prophètes. Puis il est en colère, puis en veut à sa vie. Et là, il s'en va. Il s'en va dans le désert. Il s'isole. Puis il rentre dans une caverne. Puis Dieu, dans sa bonté, il va le voir. Puis qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Dieu lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Puis là, ça nous dit, voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après cela, un murmure doux et léger. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à son prophète. Je veux juste amener quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'on s'entend que notre cher ami Élie était dans le monde comme n'étant pas du monde et que le monde était hostile? Il était très hostile. Très hostile. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand il le rencontre? Il dit « Sors! » Puis il dit, pas « Sors du monde, là! » « Sors de ta pensée! » Lui, il y avait, on dit en anglais, un pity party. Il se prenait « Oh, pauvre petit moi, ça va pas bien! » Sors de là! Sors de là, puis tiens-toi! Puis tiens-toi pas n'importe où, tiens-toi devant moi! Autrement dit, arrête de regarder ton nombril puis regarde à moi. Sors de ton apitoiement, ou ça pourrait être, sors de ta convoitise, sors de ton amertume, sors de ta colère, sors de peu importe, puis tiens-toi devant moi. C'est là que Dieu se révèle à nous. Fait qu'on a parlé aujourd'hui de cet amour que Dieu déteste. Et c'est un amour que vraiment Dieu déteste. Et peut-être que vous sentez assiégé, alourdi, écrasé, attaqué par ça. Et c'est réel, je veux dire, c'est la part des chrétiens dans ce monde. Mais Dieu nous dit, sors de ce marasme en regardant à moi par la foi. Sors et tiens-toi. Tiens-toi par la foi dans la position dans laquelle je t'ai mis en Jésus-Christ. Et comme ça, tu peux avoir de l'assurance devant moi. Écoutez ce verset-là, justement, encore dans 1 Jean. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Oh, comment quand on se tient comme ça devant Dieu en Jésus-Christ, comment on reprend notre assurance dans ce monde hostile, tenace, trompeur, sournois. Donc, ce que je vous dis, si vous êtes ici puis vous êtes un enfant de Dieu par le sang de Christ, vous avez été sauvé par sa grâce, ce que j'ai à vous dire, c'est simplement repousse l'amour que Dieu déteste, mais encore mieux, embrasse l'amour que Dieu aime. Cet amour qui est en son Fils. Sors de ce combat, puis abandonne-toi à Dieu. Sors de la lutte interne, puis abandonne-toi à celui qui a déjà vaincu, à celui qui est toujours vainqueur. C'est ça la solution, c'est lui la solution. Et pour ceux ici qui ne sont pas encore rachetés, sauvés par le sang de Jésus, vous appartenez à ce monde. Vous n'êtes pas encore, vous êtes encore esclaves. Vous avez besoin d'être rachetés par le sang précieux de l'agneau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut changer. Si vous venez à lui, en ces termes, par la foi, lui qui est mort, lui juste, pour vous injuste, pour vous délivrer du sort horrible qui vous attend si vous restez dans l'incrédulité, dans l'orgueil. Donc, Dieu a parlé, est-ce qu'on répond par la foi? C'est ce que je vous invite à faire aussitôt que j'ai terminé de prier. Seigneur, on te remercie de ce que tu es le Dieu vrai et vivant et que tu t'adresses à ton peuple. Tu convaincs ton peuple. Merci pour ton châtiment en 2020-2021. Tu as montré ta colère contre cet amour du monde, contre ce qui détruit ton peuple. Et c'est dans ta bonté que tu nous as châtiés, Seigneur. On était esclaves et pris. Et Seigneur, on te remercie de ce que tu as opéré une délivrance et que même elle n'est pas finie. On vient à toi, Seigneur, comme étant le trésor, la perle de grand prix. On vient à toi, Seigneur, parce que tu es tellement plus précieux que n'importe quoi qu'on peut trouver dans le monde. Ah, Seigneur, fais cette œuvre dans la vie de ton peuple. Et aussi, s'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, qui voient que Christ est plus précieux que tout. Que le péché est détestable, le péché détruit et trompeur. Mais Christ est précieux parce qu'il délivre, il sauve de tout péché. Merci pour ça. Béni sois-tu, Éternel. au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez